c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement. Sur RFI.
Si vous nous rejoignez, nous parlons de l'impact de nos téléphones portables aujourd'hui dans C'est pas du vent, car désormais les constructeurs comme Samsung et Apple sont attaqués en justice pour obsolescence programmée ou fabrication dans des conditions qui ne respectent pas les droits humains. Et si ce petit bijou technologique dont nous ne pouvons plus nous passer ne pèse pas plus de 100 grammes, il est gourmand en énergie et en matériaux rares ou toxiques. On le jette ? Impossible, nous en sommes devenus complètement dépendants. Alors on fait quoi ? Nous en parlons avec nos invités. Frédéric Bordage, fondateur de Green IT. Pour vous, il faut penser à l'impact global, finalement, pas seulement les téléphones, mais aussi les ordinateurs, la conception des sites web, pour agir efficacement. Alors, pour vous, quelles sont les priorités ?
Alors, pour moi, il y a deux priorités qui visent deux publics différents. Donc, pour le grand public, les utilisateurs de ces téléphones, de ces smartphones, c'est tout simplement de ne rien faire, d'attendre avant de changer son équipement, donc de l'utiliser le plus longtemps possible finalement.
Oui, mais si ça marche plus, si c'est trop lent,
et
ça
bien
nous
de favoriser
énerve.
Le réemploi, d'aller voir des réparateurs, de favoriser le marché de l'occasion, etc. Et donc il y a un moment, on atteint ses limites en tant que consommateur, mais en tout cas, il faut déjà avoir cette démarche-là.
Éviter de reconsommer pour remettre dans le circuit un nouvel objet.
Voilà,
c'est
éviter
ça.
De sombrer, éviter de se faire avoir par le marketing ou quand un opérateur vous dit au bout de 2 ans, bah, si tu renouvelles ton forfait, je te donne un téléphone à 1 euro, quoi. Donc il faut être conscient des impacts environnementaux, sociaux qu'on a évoqués dans la première partie de l'émission et ne pas céder à ça. Ça, c'est pour le grand public. Après, pour finalement, nos téléphones, nos ordinateurs, tous nos équipements électroniques, on les change, pas parce qu'ils ne fonctionnent plus la plupart du temps, mais parce qu'ils rament. Et ils rament parce que les logiciels qui s'exécutent dessus sont trop gras, ils deviennent obèses. On empile du gras numérique dessus. Et donc, il y a une vraie responsabilité au-delà de l'utilisateur, des éditeurs, des concepteurs des services qu'on utilise. Et donc aujourd'hui, on a une démarche qui s'appelle la conception responsable de services numériques, qui vise au travers notamment de l'éco-conception pour la partie environnementale, mais aussi de l'accessibilité numérique pour inclure plus de personnes, des non-voyants par exemple. On a une démarche qui permet de réduire significativement l'empreinte environnementale de le gras numérique, de façon à pouvoir utiliser les services plus longtemps sur des vieux téléphones ou des vieux smartphones.
Alors vous dites qu'on peut vraiment diminuer de presque 100%, alors ça paraît assez incroyable, mais l'impact d'un site web, comment vous faites ?
Alors
enfin, simplement, hein, pour qu'on comprenne, sans rentrer trop dans des détails techniques.
Tout à fait, en fait, c'est même des facteurs 2 à 100. Donc on divise par 2 ou par même un facteur 100, on divise par 100 l'impact associé. Et donc en fait, finalement, pour les gens qui connaissent un peu Pierre Rabhi, quelque part, on applique la sobriété heureuse de Pierre Rabhi au numérique. Mais il s'agit de se concentrer sur l'essentiel, d'avoir une démarche de sobriété, de frugalité, d'abord sur les fonctionnalités. Et donc plutôt que d'avoir des logiciels ou des services en ligne qui sont des usines à gaz, qui font des tas de choses mais pas l'essentiel, on se concentre sur l'essentiel.
Oui, mais alors moi je suis une entreprise, je crée mon site internet, j'ai envie qu'on me voit, j'ai envie qu'il y ait des vidéos, qu'il y ait de l'image, qu'il y ait du son, que les gens viennent sur mon site. Donc est-ce que c'est compatible avec ce que vous venez de dire ?
Alors en fait, pour tout ce qui est transactionnel, c'est-à-dire un service, l'utilisateur, nous, comme un des mortels, la plupart du temps quand on se connecte quelque part, c'est pour un service concret. C'est pas forcément pour de l'image, mais c'est plutôt pour avoir l'horaire d'un train, pour réserver un billet de spectacle, pour lire un article. Donc c'est pour un acte métier concret en fait. Et dans toute cette situation qui est le gros de nos usages connectés quotidiens, on peut vraiment enlever du gras, il y a du gras partout.
Mais cela dit, on sait bien cela sur RFI puisque comme on a des auditeurs qui se connectent de par le monde et dans des zones où la connexion n'est pas toujours terrible, on a créé un site low-tech comme vous diriez, qui lui aussi est moins gourmand en énergie, en image, en tout ça.
Dans ces pays-là par exemple, avec un simple SMS, on sauve des vies, ça s'appelle M-Pedigree et on envoie un numéro qui est sur une boîte de médicaments par SMS, un serveur vous dit si le médicament est contrefait ou pas et vous sauvez des vies. Donc si on arrive à sauver des vies en Afrique avec le peu de technologie présente par rapport à nos pays occidentaux, il y a certainement des leçons à tirer en fait de ces pays émergents dans une démarche low-tech, jugad, frugale et de les appliquer ici en Occident, en Europe et en France parce qu'en fait c'est ce que demandent les utilisateurs en France, ils veulent des services simples qui fonctionnent et c'est tout.
Mais un peu dans le monde entier, finalement, non ?
Dans le monde entier, tout à fait, oui.
Et alors, vous avez organisé cette semaine la réunion annuelle des professionnels de l'éco-conception. Ça consiste en quoi et ça donne quoi ?
Prenons l'exemple du site web, pour continuer dessus. Ça consiste à évaluer les impacts environnementaux associés à un site web existant. Et ensuite, d'identifier les principales sources d'impact et de les réduire. C'est un collectif d'une à peu près 70 à 80 organisations qui discutent entre elles pour mettre en place des outils opérationnels, donc des référentiels de bonnes pratiques, des services en ligne qui vont évaluer automatiquement le poids d'une page web, par exemple comme ecoindex.fr, et qui vont vous donner une idée d'où sont les impacts, et donc vous allez pouvoir les corriger en tant que technicien. Je ne vais pas rentrer dans les détails
informatiques. Non, mais ça pénètre du côté des entreprises, il y en a de plus en plus que ça intéresse.
Bien sûr, aujourd'hui,
quel est leur intérêt ?
Aujourd'hui, on a des très grandes entreprises, par exemple le 10e plus gros site web français, je ne sais pas si je peux citer une marque, donc pagejaune.fr, c'est un annuaire, et donc en 2014, vous voyez, il y a déjà 3 ou 4 ans, a éco-conçu la nouvelle édition donc, de ce service, parce que ça permet de délivrer un meilleur service aux utilisateurs, ça coûte moins cher, donc on fait plus de marge en tant qu'entreprise, avec des utilisateurs plus satisfaits, et en plus on réduit les impacts environnementaux. Et dans la démarche, ils ont en plus fait de l'accessibilité numérique pour s'ouvrir à 7 à 8 millions de Français et de Françaises qui ont notamment des déficiences visuelles. Donc c'est génial, on inclut plus de personnes, on a moins d'impacts environnementaux, et on gagne plus d'argent.
Donc c'est possible. Alma Dufour, avec les Amis de la Terre, quels sont vos moyens d'action pour limiter l'impact de nos objets ? Vous faites quoi ? Des campagnes de sensibilisation ?
Oui, aux Amis de la Terre, on est à la fois, donc on fait du plaidoyer parce qu'on insiste beaucoup sur l'importance de la régulation. Notamment là, du coup, on a commencé cette émission sur les smartphones. En fait, faut savoir que au niveau européen, il y a une directive qui s'appelle la directive cadre éco-conception ou éco-design en anglais, qui en fait impose des standards environnementaux aux produits circulant sur le marché unique. Donc, elle commence à être utilisée pour réglementer la conception des produits et donc leur réparabilité, notamment leur durée de vie. Il faut savoir que les smartphones aujourd'hui ne sont pas encore inclus dans cette réglementation. Donc déjà, ça c'est une première chose. Nous, on demande l'inclusion rapide des smartphones dans la régulation. En fait, ils nous disent que la justification de la commission, c'est que c'est un marché qui va trop vite, justement, qui évolue trop pour être réglementé, que ça prend 4 ans à poser un règlement. Mais du coup, nous, on pense que c'est une mauvaise interprétation du rôle de cette réglementation qui devrait en fait fixer à des horizons temporels définis un cadre et un guide pour les innovations, justement, pour pas qu'elles aillent dans tous les sens. Et donc, ça pourrait inclure notamment les logiciels et les systèmes d'exploitation et la réversibilité des mises à jour des systèmes d'exploitation, des choses qui peuvent être incluses dans cette norme et obligées, en fait, parce que dans un cadre de concurrence internationale et de ces multinationales-là, de l'électronique, en fait, je pense que les engagements volontaires sont difficiles à mettre en œuvre parce qu'ils sont vraiment en concurrence très féroce les uns avec les autres et aucun fera le premier pas vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est important que sur le marché unique européen, il y a des réglementations strictes à l'entrée de ces produits. Et donc, nous, on défend cette approche. Et au niveau français, ce qui peut être fait en France aussi, c'est protéger le secteur du réemploi, le secteur de la réparation indépendante, notamment, plutôt à travers du droit de la concurrence pour éviter les monopoles. Notamment, Apple est une des marques qui a créé le plus de monopoles sur tout le système de son produit et donc sur la réparation aussi. Elle ne fournit pas de pièces détachées aux réparateurs qui ne sont pas agréés. Elle ne fournit pas de documents techniques aux réparateurs qui ne sont pas agréés. Mais ce qui fait qu'en fait, chez les réparateurs agréés, on prescrit des types de pannes, des changements de pièces qui coûtent 500 €. Donc ça pousse au renouvellement. Donc nous, on demande aussi ce que les pouvoirs publics français protègent les secteurs indépendants, protègent le réemploi de ces pratiques monopolistiques. Et ça peut être fait à l'échelle du territoire national aussi.
Et limite l'export aussi de déchets électroniques qui sont souvent cachés dans des containers et qui se déversent en grand nombre vers l'Afrique. Alors on a joint l'ONG ENDA qui fait un travail formidable, mais il ne pouvait pas être en ligne avec nous aujourd'hui. Un travail formidable pour recycler, récupérer les ordinateurs et les téléphones usagés et les remettre dans le circuit, c'est un moyen de réduire la fracture numérique, ça marche bien, mais il y a plein d'initiatives comme ça en Afrique, mais c'est quand même difficile parce qu'il leur tombe sur le dos des tonnes et des tonnes de déchets électroniques. Laetitia Vasseur, c'est aussi pour ça que vous vous battez, parce que finalement quand on se bat contre l'obsolescence programmée, on limite le nombre de déchets.
Oui, tout à fait. L'association HOP, Alter Obsolescence Programmée, vise vraiment à limiter l'obsolescence programmée dans le cadre d'un projet plus global qui est à la fois de protéger les citoyens de cette obsolescence, les intérêts des consommateurs, mais aussi de protéger l'environnement parce que, comme on l'a dit, ça fait beaucoup à la fois de pollution en amont pour toute cette extraction de terres, de minerais, etc. Et puis beaucoup de déchets en aval. Par exemple, on est estime sur les équipements électriques et électroniques qu'un Français, en moyenne, génère plus de 22 kilos de ce type de déchets par an. Donc on voit que c'est vraiment considérable et cette expansion des déchets, qui pour beaucoup n'est pas vraiment complètement recyclée, c'est un grand défi et aujourd'hui cette obsolescence n'est plus possible, notamment pour vraiment des raisons écologiques.
C'est énorme, 22 kilos par an. Vous savez comment ça se décompose ? Émile Meunier a l'air de savoir décomposer ce chiffre.
Non, parce que j'ai lu aussi cette étude, c'est principalement le gros électroménager qui pèse lourd.
Ah oui, quand on se débarrasse de sa machine à laver ou de son réfrigérateur.
Ouais.
Frédéric Bordage.
Vous avez sur les équipements électroniques, vous avez à peu près 4 à 6 kilos par Français par an. Donc là, c'est vraiment smartphone, téléphone, ordinateur portable, etc.
Oui, ce qui est énorme. Hein.
C'est énorme, en fait. Multiplié par 70 millions de Français.
Et donc, Laetitia Vasseur, vous vous battez, vous, pour limiter cela et vous appuyez sur la loi, hein, puisque la France a voté une loi contre l'obsolescence programmée. C'est à souligner parce qu'il n'y a pas tant de pays que ça qui l'ont fait.
Non, la France est vraiment pionnière en la matière grâce à cette loi, grâce aussi à une garantie qui s'applique en France de 2 ans, qui est une garantie légale de conformité, qui est gratuite et dont il faut bien se souvenir quand on achète un produit. Tous nos produits sont garantis 2 ans par la loi et également bon, sur les pièces détachées, mais il y a encore du travail à faire. C'est pour ça qu'on fait aussi un travail d'influence et de lobbying citoyen auprès des institutions publiques. Finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est de rassembler le plus possible de citoyens pour avoir plus de poids auprès des institutions quand on essaye d'influencer les lois. En ce moment, il y a la feuille de route économie circulaire, donc c'est un point important. Et puis aussi d'influencer, d'engager les industriels, soit par des actions en justice, qui est un peu le côté bâton, mais aussi le côté carotte, entre guillemets, en essayant de montrer, de promouvoir les bonnes alternatives, parce qu'on veut montrer qu'il y a des solutions et il faut se tourner vers ça pour renverser le paradigme.
Alors justement, que peut-on faire chacun concrètement à notre niveau au quotidien ? On en parle juste après une petite pause musicale.
Selling time, selling happiness, selling power, selling water. Selling kisses, selling doubts, selling certainty, selling comfort, selling emotions, selling youth, selling motion, selling lies, selling life, selling entertainment, selling silence, selling games, selling strategic marketing, selling strategic marketing. If you don't buy, you die. 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 Selling dreams, selling beliefs by number, selling security, selling complexity, selling simplicity, selling intimacy, selling identity, selling love. Selling what you call beauty, selling collateral damage, selling eternity, selling injustice, selling human history, selling trash, light, darkness, selling past, present, future. If you don't buy, you die. If you don't buy.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous parlons de la face cachée de nos téléphones portables et autres objets numériques qui ont un impact environnemental et social déplorable. Nous avons vu ce qui peut être fait techniquement par des connaisseurs comme vous, Frédéric Bordage, et les professionnels de l'éco-conception numérique. Nous avons vu ce que les ONG peuvent faire. Elles se mobilisent pour porter plainte en justice. Mais à notre niveau de consommateur, quels sont les recommandations que l'on peut faire, comment pouvons-nous agir nous au quotidien? Il y a beaucoup d'ateliers et de plateformes d'aide à la réparation par exemple qui sont en train d'émerger un peu partout comme iFixit. Bonjour Claire Rapp.
Bonjour Cécile, bonjour à tout le monde.
Vous animez notamment la communauté d'iFixit, alors expliquez-nous le principe de votre plateforme.
Alors, iFixit, en gros, c'est le tutoriel de réparation en ligne gratuit qui est accessible à tous et modifiable par tous. Et cette plateforme a pour mission, a pour but de donner aux gens les moyens de réparer leurs affaires et ainsi de faire des économies d'un côté, mais aussi de réduire les déchets électroniques.
Alors ça prend de l'ampleur, donc, hein, il y a de plus en plus de membres dans votre communauté.
Oui, exact. Alors on a démarré en 2003 aux États-Unis et nous sommes présents en Europe depuis 2013. Actuellement, nous proposons notre plateforme dans 13 langues. Les gens ont accès à plus de 35 000 tutoriels, 110 000 solutions, donc des gens qui ont posé une question sur un sujet très précis, sur un problème précis de réparation et qui ont reçu une réponse. Voilà, donc toute cette plateforme est financée par la vente de pièces détachées électroniques pour la plus grande partie et d'outils spécialisés pour ces réparations.
Alors qu'est-ce que l'on peut apprendre, par exemple, concrètement sur votre plateforme ?
D'un côté, on peut s'informer pour savoir quels appareils sont faciles à réparer, donc... Qui veut acheter un téléphone peut aller consulter chez nous une liste où nous avons jugé la réparabilité de quasiment tous les portables sur le marché actuel. Donc ça va de 10 pour le Fairphone, qui est le mieux, à 0 ou 1 pour le HTC One. Donc d'un côté, les gens peuvent s'informer pour savoir qu'est-ce qui est facile à réparer. Et après, si jamais l'appareil s'est vraiment cassé, on peut chercher sur le site des tas d'informations utiles à la réparation, qu'il s'agit du tutoriel ou bien quelles pièces détachées on peut acheter, les outils. Et après, il y a évidemment le forum de questions où les gens peuvent poser leurs questions si jamais ils n'ont pas trouvé l'information qui leur servait sur le contenu qui existe déjà.
Voilà, et on peut apprendre les uns des autres. Ça s'appelle iFixit. Merci Claire Rapp pour ces informations. Émile Meunier, ça c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas que la justice, hein. Il y a aussi voilà, se prendre en main, savoir
la justice, gérer. La justice est primordiale. La preuve, c'est que ça peut faire bouger les choses. Mais effectivement, quand on parle de qu'est-ce qu'un citoyen peut faire, moi, je pense que la réparation, c'est un très beau chemin, en fait. C'est même une belle aventure parce que déjà, on retrouve un peu le goût des choses, de les réparer. Il y a une sensation quand même de satisfaction. Mais surtout, c'est des emplois locaux. Et là, souvent, c'est aussi ce langage qu'il faut savoir parler. C'est-à-dire, économiquement, c'est intéressant pour un pays d'axer une politique sur la réparation. Puisque, évidemment, on répare en France, sur nos territoires. C'est des savoir-faire qui se transmettent. Et le consommateur doit évidemment avoir le réflexe réparation plutôt que le réflexe rachat, mais malheureusement en France, la réparation c'est encore trop cher. C'est-à-dire que trop souvent, ça revient moins cher d'acheter neuf que de réparer. Pourquoi ? Parce que peu de pièces détachées disponibles, les biens sont construits comme des iFixit de façon à que ce soit difficile de réparer. Et il y a des leviers d'action pour les pouvoirs publics, et je pense qu'une belle politique là pour les prochaines années à venir, c'est vraiment être le paquet pour réduire le coût de la réparation. On pense à la fiscalité, on pense aussi à inciter les entreprises à rendre leurs biens plus réparables.
Marie-Laure Guislain.
Oui, là, on est concentré aussi sur l'impact environnemental que peuvent avoir nos déchets. C'est vrai qu'on oublie parfois l'impact social.
On en parle dans cette émission.
Et justement, le consommateur peut aussi avoir un rôle qui lui paraît peut-être plus indirect, mais c'est grâce par exemple à la mobilisation des consommateurs aujourd'hui, notamment à travers des pétitions, que la loi sur le devoir de vigilance qui oblige les multinationales à être responsables sur leur chaîne de production et notamment à ne pas violer les droits fondamentaux, c'est grâce à ces pétitions et à la mobilisation citoyenne et consommateurs qu'elle a été adoptée. Aujourd'hui, c'est important pour nous à Sherpa, nous luttons contre l'impunité des multinationales de façon générale et donc que ça soit sur l'électronique ou autre. Il y a cette loi en France qui permet de demander aux multinationales d'être vigilantes sur leur chaîne de production, donc de ne pas, par exemple, employer des enfants dans leurs usines, de ne pas violer les droits syndicaux ou autres fondamentaux des travailleurs. Mais, par exemple, notre plainte Samsung le rappelle, toutes les multinationales ne sont pas concernées aujourd'hui, puisque cette loi... Il y a des seuils, en fait, d'entreprises en France, donc 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde, mais le siège doit être en France. Donc la maison mère coréenne, par exemple, Samsung, ne serait pas concernée. Il y a un traité international qui devrait imiter cette loi française et qui est en cours de négociation à l'ONU.
Il y a eu une troisième session en octobre dernier de discussion.
Exactement.
Alors ça avance.
Et ça avance, mais malheureusement, les États-Unis aujourd'hui veulent bloquer le processus en disant que le mandat est fini, qu'il y avait un mandat pour 3 ans. Donc on encourage vraiment le consommateur à se rendre compte en fait de tout ce qui se passe vraiment au niveau régulation internationale qui a un impact direct sur lui et on encourage la France à se mobiliser davantage dans ces négociations pour que toutes les multinationales soient vigilantes sur la chaîne de production et que le consommateur ne soit plus malgré lui responsable de violations graves de droits humains dans la chaîne de production.
L'objectif étant d'adopter le premier texte d'un traité sur l'obligation de respect des droits humains par les multinationales, donc ça se passera, on l'espère, au niveau